d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à toutes et à tous, Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nous sommes bien le quatrième vendredi du mois. Nouvelle saison, nouveau nom, mode d'emploi, quatrième dimension. Aux manettes, Claude. À la crèche, Papa Damdam. Aux herbiers, Lolo Glodino. À la rescousse, c'est Corentin. Et à l'ouverture, Mathéo. Le thème de ce soir, l'économie de la fonctionnalité. Alors, Kezako, l'économie de la fonctionnalité. J'en ai parlé à plusieurs personnes cette semaine, le concept n'est pas si connu. Pourtant, les expériences commencent à se multiplier. Alors, en résumé, il s'agit de remplacer la vente d'un bien par la vente de l'usage de ce bien. Le vendeur reste propriétaire, autrement dit, c'est la location, mais pas que. Le bien et les services associés sont indissociables. Leur performance est interdépendante. On ne vend pas seulement un produit, mais un résultat, une performance d'usage. Par exemple, on va vendre le confort de la lumière plutôt que uniquement des ampoules. Résultat, le vendeur a intérêt à faire durer son bien. Vous voyez déjà l'intérêt environnemental qui pointe à l'horizon, mais il y en a bien d'autres. Si vous n'avez rien compris à nos explications, ça tombe bien, puisqu'on va discuter pendant une heure avec des experts en la matière. Trois invités ce soir, dans les studios Patrice Vuidel, consultant associé du laboratoire d'intervention et des recherches Atemis, délégué général du club de l'économie de la fonctionnalité et du développement durable.
Bonsoir.
Nous avons également Frédéric de Oliveira, dirigeant de la société d'outillage spécialisé Univera.
Bonsoir.
Et au téléphone à Lyon, nous avons Antoine de Chambost. Est-ce qu'Antoine est là ?
Bonsoir.
Le voilà. Dirigeant de la société de location et de lavage de couches pour enfants, baptisée tout simplement Ma Petite Couche. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez cette émission, comme toutes les précédentes, sur le site internet de Mode d'Emploi. Également, en rediffusion sur Fréquence Paris Pluriel, le mercredi matin à 7h.
Pour commencer, à notre habitude, nous aimons bien cerner le sujet. Et je vais donc passer la parole à notre expert en la matière, Patrice, sur voilà, de quoi on va parler aujourd'hui, depuis combien de temps ça existe, quel est son objectif, comment ça s'est créé.
Bonsoir. Alors, il y a plusieurs chemins qui sont arrivés à l'économie de la fonctionnalité. Le point de départ, c'est, comme pour tous les nouveaux modèles économiques, d'imaginer que c'est une réponse à une limite ou à un problème du modèle dominant qui est le modèle industriel. Il y a plusieurs limites à ce modèle. Le premier, c'est qu'on arrive dans des marchés qui sont saturés. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde a acheté une voiture, une télévision, un magnétoscope, on se retrouve dans une difficulté à continuer à ce que la croissance se développe. Donc, l'économie de la fonctionnalité, c'est dans une première part un essai de répondre à cette limite en imaginant qu'une des façons de continuer à faire développer l'activité, c'est non plus effectivement de vendre des biens, mais de mettre à disposition des biens, de vendre leurs usages et de développer une valeur de service ou d'augmenter la valeur qui est apportée à travers une intégration de biens et de services.
Et de cette manière, on va moins besoin de produire des biens et on va utiliser moins de ressources, moins d'énergie, moins de matière.
Alors, ce qui est intéressant quand on est dans cette perspective, c'est que quand vous vendez un bien, vous faites toujours un arbitrage entre la qualité du bien et le prix auquel vous allez pouvoir le vendre. Ce qui fait qu'on arrive parfois à des logiques d'obsolescence programmée ou à des logiques de production de biens à bas coût, pour pouvoir les vendre à bas prix, tout en sachant que ce sont des biens qui ne seront pas durables, hein, qui seront cassés au bout d'un moment, mais ça alimente la machine. Si vous changez de perspective et si vous mettez à disposition le bien, dans une logique où les personnes vont accepter de payer un abonnement, payer un usage, eh bien finalement vous avez tout intérêt à ce que votre bien soit durable soit adapté aux usages, qu'il y ait peu de maintenance, parce que tous ces éléments de service vont être des coûts qui sont intégrés dans votre offre. Donc vous passez d'une logique où vous avez un intérêt à ce que le bien soit cassé pour qu'on le répare ou qu'on le change, à une logique où vous avez intérêt à ce que le bien soit durable parce qu'il est le support du service. Donc dans cette perspective-là, il y a un vrai intérêt parce que ça incite les producteurs de biens à penser des biens qui soient pour le coup durables.
Mais du coup, on pourrait en prime abord penser que tout ce qui est location de voitures, par exemple, reprend ça depuis des dizaines d'années.
Ah, effectivement, c'est ce qu'on peut entendre parfois. Et là, il y a un travail qui a été mené par l'ADEME il y a quelque temps pour essayer de redéfinir le périmètre. Alors, c'est pas pour faire des définitions d'experts. C'est pour imaginer à quelles conditions, finalement, ce nouveau modèle... il est plus porteur de réponses, soit d'un point de vue des enjeux environnementaux, soit d'un point de vue des enjeux sociaux. Pour l'ADEME, ce qui l'intéresse, c'est qu'on soit dans un modèle qui réduise l'impact environnemental. Alors, ce que considère l'ADEME, et qui me semble une assez bonne approche, c'est de considérer que le passage à la vente, de la vente à l'usage, est intéressant à partir du moment où on s'inscrit réellement dans une logique de cycle de vie et dans une volonté d'économiser la matière ou d'optimiser la matière. Et c'est là où on arrive sur la limite peut-être de ce modèle de la location, c'est que malgré tout, les loueurs par exemple, leur modèle économique, il est plus sur un volume de voitures qu'ils vendent, mais sur un volume de voitures qu'ils louent, et donc sur un usage. Donc vous avez une intensité de l'usage et vous avez besoin de renouveler votre voiture à un moment. Donc, simplement passer à l'usage, si c'est pour avoir un intérêt à augmenter l'usage, vous êtes toujours finalement dans une logique de volume. Vous avez déplacé la question, vous avez malgré tout intérêt à ce que le bien soit durable, mais on est quand même dans une limite d'un point de vue environnemental. Donc l'idéal, ça serait finalement de vendre les effets de la voiture sans l'usage de la voiture. Je fais exprès de dire ça parce qu'on verra que c'est un peu plus compliqué, mais on va commencer à réfléchir comme ça. Donc on peut considérer qu'une location classique, c'est le passage, c'est ce qu'on appelle la servicisation de l'économie, et ça ne répond pas, ou ça ne répond que très imparfaitement, aux enjeux environnementaux. Donc il faut que ça soit inscrit vraiment dans une logique de boucle, de cycle de vie, de réusage, de réemploi, voilà, de volonté de faire durer le bien.
Quand est-ce qu'est né ce concept? On le situe à quelle époque? C'est lié aux années 70, la crise du pétrole, la prise de conscience écologique, ou c'est plus ancien?
Non, c'est plus récent, c'est plutôt années 90. C'est une personne qui s'appelle Walter Stell, qui est un des premiers à parler du passage à l'usage, et donc de vendre l'usage plutôt que le bien. Et puis, dans la continuité de cette trajectoire, à partir des années 90, vous avez une réflexion autour de ce qu'on va appeler les systèmes produits-services. Cette idée de passer de la vente d'un produit à une agrégation de produits et de services. Et donc là, on retombe sur l'enjeu des industriels, d'augmenter le chiffre d'affaires et de faire de la croissance en vendant aussi les services associés au bien. Et donc en mettant le bien comme le support d'une démarche de service.
C'est quelque chose qui fonctionne à l'heure actuelle, qui fonctionne pour les particuliers, qui fonctionne pour les professionnels. Effectivement, moi, pour en avoir aussi parlé un peu autour de moi, c'est pas forcément une démarche qui est très connue. Quelles sont les proportions? Est-ce que ça grandit? Quelle est la trajectoire de tout ça?
Alors, si on interroge il faut regarder on va dire le B2B, le rapport inter-entreprise, et puis le rapport aux consommateurs que nous sommes. Les consommateurs que nous sommes, de plus en plus, on voit apparaître un intérêt et des pratiques pour le partage, la location. Et donc dans cette perspective, on voit qu'il y a un rapport au bien qui change, et que ça peut être un point d'appui pour essayer de construire un nouveau modèle économique. Alors c'est avec la limite que j'ai dit, hein, tout ce qui est location n'est pas forcément inscrit dans une perspective très positive d'un point de vue environnemental, d'autant plus que du point de vue des consommateurs, on va tomber sur une autre limite, c'est que si ça rend le bien plus accessible, eh bien finalement, il y a un risque d'augmentation de l'usage. Par exemple, un téléphone très cher à l'achat, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. On vous le fait plus payer en une fois, on vous le fait payer à travers une logique d'abonnement. Et en fait, au lieu de payer 1 000 euros, ce que vous seriez incapable de payer, vous allez payer 70 euros par mois. Et là, tout d'un coup, vous avez la possibilité, vous devenez solvable. Et donc, la conséquence, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont pouvoir accéder à ce produit. Donc on voit bien là, y compris que l'effet est intéressant d'un point de vue
mental et de consommation de ressources. Là,
voilà, d'un point de vue social, il favorise un accès, mais d'un point de vue environnemental, il est problématique. Donc c'est pas une réponse.
Et principalement sur le cas des téléphones portables, il y a eu des procès parce que c'était un prêt à la consommation déguisé, donc qui change un peu le paradigme. C'était pas vraiment une location. Et c'est Que Choisir qui a fait le procès, qui ont gagné avec Free d'ailleurs, je crois, qui ont fait ce procès en disant que c'était un crédit à la consommation et pas du leasing et pas de la location. Donc pour la petite.
Voilà. Donc vous voyez, c'est ce qui est important au-delà d'une définition. C'est bien de voir en quoi ça répond à des enjeux. Ça répond mieux à des enjeux sociaux ou à des enjeux environnementaux. Alors, du côté des entreprises, assez classiquement, on voit effectivement apparaître maintenant l'idée que un ensemble de biens supports de la production, on n'a pas forcément intérêt à les posséder et on peut les avoir à disposition. Alors là aussi, on va trouver de la simple location et puis on va trouver des offres où, plutôt que d'acheter un compresseur à air, on va acheter plutôt les volumes d'air comprimé. Et là, on va commencer peut-être à réfléchir dans une logique où, autour de ce passage, peut-être on peut accompagner le client à économiser de l'air comprimé, pas simplement à lui mettre à disposition de l'air comprimé. Et donc, là, on va rentrer peut-être dans une logique de performance d'usage. Et donc, si on fait des gains, on pourrait partager les gains. Et là, vous voyez, on commence à rentrer dans une autre logique, dans un autre modèle.
Et on voit qu'il y a des concepts assez proches. On va citer des exemples. Vous allez nous dire si vous les considérez comme partie intégrante de l'économie de la fonctionnalité ou pas. Le Vélib, par exemple.
Il n'y a pas de buzzer.
Non, le Vélib, le vélo partage, parce que le Vélib, c'est très parisien. Mais les différents systèmes de
alors,
vélo
ce qui
partage,
est...
est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'économie de la fonctionnalité?
Ce qui est intéressant, c'est, je dirais, c'est plus si on arrive à l'intégrer dans un ensemble de moyens de transport alternatifs à la voiture propriétaire. Parce que l'enjeu derrière, c'est un enjeu de mobilité. C'est intéressant le vélo partage, on va pouvoir effectivement mutualiser des vélos, mais si on pousse finalement, c'est quoi la valeur du vélo qu'on met en partage, c'est la capacité à accéder, à se déplacer de façon fluide, sans être pris dans des embouteillages, etc. Et on voit aujourd'hui que la performance, elle n'est pas uniquement liée au fait qu'on a un vélo accessible, mais qu'on a tout un ensemble de moyens de déplacement. Donc
si
en fait,
y a pas de piste cyclable.
Voilà. Et donc il faut arriver vers des solutions de mobilité. Et l'idéal, finalement, ça serait de passer d'une logique de transport ou de déplacement à une logique de mobilité dans laquelle on prend en charge, y compris les conditions d'accès à la mobilité. Et c'est pas juste avoir des biens, c'est aussi avoir une connaissance, être accompagné, parce que changer de mode de transport, faire du vélo, on sait qu'un des principaux freins pour faire du vélo en ville, c'est la peur de l'accident. Donc c'est aussi remettre les gens en selle, etc. Donc vous voyez, c'est une offre un peu plus large, et surtout une offre qui articulerait différents modes de transport entre eux. Je passe du vélo au bus, du bus à la voiture en partage. Et là, petit à petit, on arrive sur des territoires qui arrivent à prendre en charge des enjeux de mobilité avec une performance à la fois sociale et une performance environnementale. On dégage de l'espace public, on partage, donc on n'est pas obligé d'avoir chacun son mode de déplacement.
Et est-ce que le public est prêt à ça? Parce qu'on a une culture de l'objet, de posséder quelque chose et pas de rechercher un service. D'ailleurs, tout ce qui est marketing est basé là-dessus. Vous preniez l'exemple des téléphones portables. On a besoin du plus beau pour se montrer en société. C'est comme ça que Apple... on est prêt à aller dans cette direction? Est-ce que il y a un risque?
Parce qu'on disait tout à l'heure, du point de vue des consommateurs, ça bouge sur certaines choses. Voilà, sur certains biens, sur le rapport à certains biens. On voit sur le rapport à la voiture. Pour toute une catégorie de population, c'est plus forcément un signe de distinction et on le voit plutôt comme quelque chose qui sert un usage, voire comme quelque chose qui est polluant, et donc on peut avoir des discours alternatifs à la voiture. Voilà, mais ça reste encore circonscrit à peut-être à une certaine catégorie d'objets. Mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est bien que si on veut changer de modèle économique, il faut nous-mêmes, en tant que consommateurs, qu'on change notre rapport au bien et qu'on soit capable d'exprimer un besoin et d'essayer de chercher une réponse à nos besoins autrement que par la possession d'un bien.
Est-ce que Airbnb, c'est de l'économie de la fonctionnalité ?
C'est un système de location. Alors là on va arriver sur le peut-être sur la différence entre l'économie de la fonctionnalité et puis l'économie collaborative. Ce qui est en fait le fond d'Airbnb, c'est quoi ? C'est que jusqu'à récemment, vous aviez une séparation très nette entre des producteurs et des consommateurs. Vous aviez des gens qui produisent un service, qui sont payés pour produire le bien ou le service, et vous avez des gens qui consomment un service. Et là, tout d'un coup, l'irruption des nouvelles technologies permet de mettre en relation des individus, et vous avez des entreprises qui vont construire une médiation, une intermédiation entre deux individus, et finalement, le service est rendu par un autre individu, pas par un professionnel, il est rendu par vous, par moi, qui à un moment avons un bien et le mettons à disposition. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. C'est une autre façon de partager, mais on est vraiment dans un autre modèle. C'est vraiment le modèle, la construction d'un modèle où la valeur de service, elle se crée entre deux individus, et le tiers, c'est un tiers qui crée la relation et qui doit créer la confiance.
La relation.
D'où le système de notation. On se note maintenant, c'est génial, on va noter son voisin et la qualité de son appartement. Mais c'est pourquoi on le fait ? Parce que quand vous faites appel à un professionnel, quand vous allez dans un hôtel, vous avez en face de vous des salariés qui sont là, qui représentent l'entreprise. Et donc, ils sont dans un rapport de travail, ils sont dans un rapport de subordination, ils font pas ce qu'ils veulent. Donc, vous pouvez attendre une qualité de service, vous avez des engagements. Quand vous allez chez un particulier qui vous prête son logement, vous savez pas, ou quand vous montez dans la voiture de quelqu'un qui est un particulier, vous savez pas qui c'est. Et donc, ces plateformes organisent un système de notation pour créer les conditions de la confiance. Parce que on a un besoin de confiance. Sans confiance, on prendra pas le service. Vous voyez, on est quand même sur un peu autre chose, là.
Dans le collaboratif, dans un modèle consommateur, avec un intermédiaire, mais il y a moins de gains sociaux et moins de gains environnementaux.
Vous avez un gain social parce que vous avez un accès facilité. Du point de vue environnemental, on va retomber sur la même chose que tout à l'heure. Le covoiturage, dans certains cas, ça élimine des trajets. Dans d'autres cas, ça facilite des trajets. Et donc, le gain environnemental est pas spontané et pas évident. Et Airbnb, on est bien dans une logique de volume. Tout le modèle se construit sur la vente de nuitées de particulier à particulier. Donc, peut-être on va discuter après. L'idée, c'est comment on sort du volume. Que ça soit je vends des biens, un volume de biens, ou je vends même un volume de services, on est quand même dans une logique de volume. Donc, on est malgré tout rattrapé à un moment par un rapport problématique à la question de la consommation, de l'énergie, de la matière.
Quels sont les secteurs qui sont les plus appropriés au développement de l'économie de la fonctionnalité ? On a pas mal parlé de mobilité. Est-ce que tous les secteurs peuvent être concernés ou est-ce qu'il y a quand même des secteurs qui sont plus propices ?
Alors aujourd'hui, dans la façon dont nous avons une expérience d'accompagnement de dirigeants d'entreprise, nous avons mobilisé le modèle de l'économie de la fonctionnalité auprès d'un ensemble très diversifié de dirigeants et de secteurs d'activité. Et c'est là où ça va devenir effectivement intéressant, c'est de considérer que cette recherche d'un nouveau modèle, si on passe de l'usage à la performance d'usage, si on réfléchit sur la valeur que l'on crée, si l'on essaye de dissocier les moyens que l'on mobilise de la valeur que l'on crée, eh bien, on peut réfléchir presque pour tout type d'activité.
On va faire une petite pause médicale et puis on abordera des projets concrets avec Frédéric d'Oliveira et Antoine de Chambost. On va écouter Boris Vian et Henri Salvador. Moi, je préfère la marche à pied.
Moi, je voudrais m'offrir une grosse voiture, rouge et verte avec des ailes creuses. Passer une heure à la mairie.
Mais à la réflexion, je crois que je préfère la marche à pied.
Oh, je te l'avais bien dit.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi consacrée à l'économie de la fonctionnalité continue. Ce soir, dans cette deuxième partie, nous consacrerons en principal à des témoignages. Et je vais donc donner la parole à Lyon, à Antoine de Chambost, pour nous expliquer ce que fait sa société et en quoi elle s'est engagée et pourquoi elle s'est engagée dans cette démarche si particulière. Antoine.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc je suis Antoine de Chambost, cofondateur de Ma Petite Couche. Il s'agit d'un service de location et de lavage de couches textiles pour les bébés. Donc effectivement, par rapport à la discussion que j'ai entendue précédemment, nous on a deux offres. On a une offre de location simple dans toute la France. Donc on expédie des colis de couches et les gens les payent à la semaine. Et on a une offre qui est effectivement plus proche de l'économie de la fonctionnalité, qui est la location, mais également l'entretien, c'est-à-dire le lavage. C'est-à-dire qu'on passe chez les parents, deux fois par semaine, pour récupérer les couches usées et leur livrer des couches propres, tout ça à vélo. Donc on vend effectivement un service, on vend la couche textile en tant que service. Ce qui veut dire que on réduit énormément les ressources par rapport à des couches jetables à usage unique et les déchets produits également quand elles se retrouvent à la poubelle. L'économie de fonctionnalité, effectivement, repose un peu aussi sur l'économie de l'abonnement. À savoir que, au lieu de payer en une fois, effectivement, on va payer toutes les semaines, tous les mois. Et donc, ça peut se rapprocher de la location. Mais c'est vrai que nous, on vend plus un service de change pour les bébés que des couches.
C'est-à-dire que votre modèle est déconnecté du volume de couches ?
Il y a un certain nombre de couches nécessaires en fonction de la situation de l'enfant, de son mode de garde. Donc ça peut être 16 couches par semaine s'il est gardé dans une crèche qui n'accepte pas les couches lavables la journée. Et ça peut être jusqu'à 35 couches par semaine pour un bébé qui est gardé chez une maternelle qui accepte les couches lavables ou par leurs parents.
Et dans la conception du produit, ces démarches-là, comment elle s'inscrit dans la recherche et le développement sur cette couche, dans cette conception ?
Alors, nous, on est vraiment, en fait, un gestionnaire de service. On ne fabrique pas les couches. Donc, on a un fournisseur qui est un fabricant de couches avec lequel on travaille. Et évidemment, notre intérêt, c'est que ces couches durent le plus longtemps possible. C'est-à-dire que le nombre de cycles de lavage soit le plus important possible. Et donc, tout notre process de lavage va être dirigé pour réduire l'usure de ces couches. Et donc, évidemment, nous, économiquement, c'est bien plus intéressant. C'est-à-dire qu'une couche qu'on va pouvoir laver 400 fois ou une couche qu'on va pouvoir laver 800 fois, pour nous, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, notre intérêt à nous, effectivement, c'est de préserver la matière, c'est de préserver le produit et de le faire durer le plus longtemps possible et donc d'économiser les ressources, tout en gérant aussi les économies de ressources au moment du lavage, c'est-à-dire l'énergie, l'eau, les détergents, etc. Et donc, on est aussi force de proposition par rapport à notre partenaire qui est le fabricant pour améliorer les couches, pour les rendre plus résilientes, de lui faire des retours sur les endroits de sa couche qui sont peut-être un peu plus faibles, de manière à les faire durer le plus longtemps possible ou pouvoir les réparer facilement.
Et du coup, le lien avec les parents se fait aussi pour avoir des retours d'expérience, pour travailler ensemble, pour améliorer leur quotidien. Est-ce que il y a ce dialogue qui est possible sur des quotidiens ?
Absolument. C'est-à-dire que en fait, nos livreurs à vélo, ils ne sont pas que des livreurs. On fait en sorte qu'ils aient le temps. C'est-à-dire qu'on on leur demande pas de faire le plus de clients à l'heure. On fait en sorte qu'ils aient le temps d'écouter les parents pour expliquer des problèmes de fuite ou des problèmes de décoloration ou enfin voilà tout ce qui peut remonter et nous on synthétise tout ça et ensuite on dialogue avec le fabricant pour essayer d'améliorer le produit grâce au retour de nos clients qu'on écoute au moment où notre livreur passe à leur domicile.
Oui, bonsoir Antoine, c'est Patrice. Je trouve ça très intéressant parce qu'on voit que à travers ce petit échange là, on peut augmenter la valeur de service, c'est-à-dire que à travers la question de ce qui se joue, pourquoi on utilise des couches et au-delà de la qualité de la couche, on peut rentrer dans des questions de santé de l'enfant, dans une préservation de sa peau, etc.
Alors effectivement, nos deux arguments de vente, c'est un premier qui touche l'ensemble des parents, qui est l'éloignement des perturbateurs endocriniens qui peuvent être présents dans les couches jetables à usage unique. Ça, c'est quelque chose qui touche les parents. Et après, pour ceux qui ont une conscience écologique un peu avancée, ce qui est le cas de toutes les générations qui viennent, la réduction de déchets, et eux comprennent que réduction de déchets, c'est préservation de l'environnement, de la qualité de l'air, de l'eau, de la terre, etc. Mais ça, c'est des gens qui sont déjà un petit peu sensibilisés à ce concept. Mais par contre, sur l'aspect santé environnementale, effectivement, c'est un service qu'on rend. On garantit, les couches sont labellisées avec un label textile très connu. Et donc, on rassure les parents sur ce point. Et donc, ça fait partie du service qu'on délivre. De garantir la non-toxicité de ces couches.
Je vais me faire porte-parole de certains parents puisque je suis concerné par le sujet. Et effectivement, les couches lavables, on y vient vite à bout parce que il y a une intendance, une gestion derrière qui est compliquée. Et avoir un service d'accompagnement derrière pour ces questions malheureusement bêtes qui sont les fuites.
Pragmatiques,
qui sont les fuites, comment laver, comment rattraper la couche. Avoir un service derrière change la démarche. Et puis, en tant que parent, effectivement, avec une petite conscience, on se pose la question de l'écologie, de la santé de l'enfant, et on voit les articles un peu inquiétants sur les différents médias, sans avoir vraiment de solution pérenne.
Voilà, nous, c'est vraiment l'idée. En fait, les deux cofondateurs sont deux papas qui ont testé les lavables et qui ont arrêté. Voilà. Donc c'est de là qu'est venue aussi cette idée, qui s'est inspirée de quelque chose qui existe sur Strasbourg. Mais effectivement, nous, il y a un accompagnement avant l'achat pour expliquer comment ça fonctionne. Après avant l'achat, avant l'abonnement, en fait. Après l'abonnement, on a un numéro de téléphone. Effectivement, si les parents sont en difficulté, ils peuvent nous appeler pour poser une question très, très pratique. Et donc, vraiment, l'idée, c'était ça. C'était la couche lavable reste confidentielle. Comment faire pour que, en la livrant en tant que service, les parents soient rassurés et vraiment que ça décolle et que ça pénètre vraiment le marché de la couche globale, qui est quand même un marché de 2 millions de bébés en France, qui est dominé par une marque très connue, qui n'a pas les mêmes préoccupations que nous.
Patrice, vous aviez une remarque à faire.
Ce qui est intéressant, c'est aussi, on discute sur le fait qu'il faut qu'on change nos modes de consommation et nos comportements, et là on voit que c'est une occasion pour passer d'une logique où quand vous achetez des couches, vous êtes dans un rapport qualité-prix, mais vous allez regarder le coût unitaire ou le coût du paquet de 30 couches et vous allez les comparer dans le rayon. Là, on vous propose un service. Et ce qui est intéressant, c'est finalement, on arrive presque vers une logique de consentement à la dépense. Et c'est pas du tout...
Qu'est-ce que vous entendez par consentement à la dépense?
Combien je suis prêt à mettre chaque semaine ou chaque mois pour que quelqu'un vienne me mettre à disposition des couches et prennent en charge le lavage et en même temps m'apportent du conseil, m'accompagnent. Et on voit bien qu'on n'est plus dans un rapport à un prix unitaire. On est dans un rapport à quelle valeur ça a pour moi, combien je suis prêt à mettre. Et alors, si je suis prêt à mettre un prix suffisamment élevé pour que ça permette à Antoine de faire fonctionner son entreprise, ça va marcher. Mais vous voyez, on commence à sortir d'un référentiel qui est le prix unitaire du bien pour aller vers un autre référentiel. Et là, ça devient très intéressant parce que c'est une façon de reconnaître la valeur. Et la valeur, c'est pas la même pour chacun. Peut-être que quelqu'un va dire, moi, je suis prêt à mettre 20 euros par semaine pour qu'on me propose ce service. Et quelqu'un d'autre va dire, mais moi, 50 euros par semaine ou 70 euros par semaine. Parce que ça m'enlèverait un vrai problème ou parce que j'y accorde beaucoup d'importance, ça fait sens pour moi, mais en même temps, c'est super pénible. Donc, je suis prêt à mettre beaucoup. Et là, on commence à passer à un rapport où le prix que l'on indique est l'expression d'une valeur que l'on porte au service. Et plus l'expression d'un rapport à un bien qu'on va acheter dans un linéaire de magasin. Donc c'est très intéressant, ça.
On pourrait presque avoir des prix différents fixés par le client plus que par l'entreprise pour un même produit et un même service.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est vrai que nous, malgré tout, on a été obligés de regarder les prix du marché pour essayer de proposer une offre qui était quand même dans les mêmes ordres de grandeur. Et c'est un gros challenge pour nous, effectivement, de faire comprendre vraiment la valeur de ce service de manière à ce qu'on ne compare pas systématiquement au prix unitaire. Ça, c'est encore un challenge qu'on a, c'est qu'on dégage pas beaucoup de marge parce que on est obligé de se référer à ces prix, sachant qu'effectivement, on peut pas prendre les prix, les premiers prix des marques de distributeurs, évidemment. Mais voilà, il y a quand même des prix de référence et on a des clients qui sont effectivement, parce qu'ils comprennent tout l'enjeu du service, prêt à mettre plus. Mais nous, voilà, effectivement, la fixation du prix, c'est quelque chose qui nous pose question tous les jours.
Mais parce que, est-ce que ce serait pas parce que
pérenne, est-ce qu'on est capable de saigner sur des prix de choses qui ne sont pas exactement pareilles, qui ne sont pas forcément purement comparables? Et c'est là où effectivement, évidemment, si on arrive à être moins cher, c'est bingo. Mais le modèle économique reste quand même, voilà, très difficile à trouver. Et il faut vraiment faire comprendre la valeur, voilà, du service.
Alors, il y a une autre façon de réfléchir, hein, quand on, par rapport à ce que vous dites.
En fait, Antoine, on vous a offert une séance de consulting gratuite, ça. Non,
on avait failli se rencontrer en mai avec. Patrice.
Ouais. C'est finalement de dire, ça profite à qui? Ça profite à qui aujourd'hui, ce nouveau système, et qui en bénéficie sans l'avoir demandé et finalement sans.
Absolument. Et par exemple, les collectivités et donc les contribuables en bénéficient de façon directe parce que finalement.
On est passagers clandestins du système.
Voilà, on réduit le poids des déchets, ce qui est quand même assez important. Hein. Un bébé, c'est une tonne de déchets entre le moment où il naît et le moment où il est propre.
Oui, donc, c'est impressionnant.
Une tonne, au prix à la tonne, d'enlèvement, etc. Donc,
il est là, votre argument fort.
Les collectivités. Voilà, et c'est pour ça qu'on va voir les collectivités en essayant de les faire participer au problème. Alors, ce qui est encore plus facile, c'est quand on est sur des communautés de communes qui ont mis en place la redevance incitative. Parce que là, en fait, la taxe d'enlèvement est individualisée. Et donc, du coup, pour des clients, ils voient tout de suite la réduction sur leur taxe en prenant notre service.
Et là, c'est ce qu'on parle des effets d'externalité quand on parle de ça. C'est-à-dire, c'est un effet indirect.
Rappelez-vous de vos cours de seconde. Les externalités voilà. Positives, négatives.
Mais vous savez que c'est un des principaux problèmes qu'on n'arrive toujours pas à résoudre. Si on veut changer de modèle, il faut qu'on trouve comment, dans la dynamique, on arrive à changer notre rapport aux externalités. C'est évident. Là, on le voit bien avec l'exemple d'Antoine. Il fait bénéficier la collectivité, à travers la collectivité, tous les habitants, puisqu'effectivement, ça participe de la réduction des déchets. Mais pour l'instant, ce sont les personnes qui achètent le service qui finalement payent pour cette externalité positive. Donc on pourrait considérer, et Antoine a raison, que les collectivités pourraient, de façon justifiée, participer du développement, soit directement en finançant, soit en accompagnant sous certaines formes, en contribuant au développement de cette activité, au vu du bénéfice qu'elles en retirent ou que leurs habitants en retirent.
Je pensais pas qu'on parlait de couches un jour dans cette émission, mais ce qui est intéressant quand même là, c'est qu'on voit la dimension coopérative qui est essentielle et on en arrive à la dimension territoriale de l'économie de la fonctionnalité où derrière il y a différents acteurs qui doivent coopérer pour arriver à des gains environnementaux.
On crée énormément d'emplois locaux, alors que les couches jetables à usage unique sont fabriquées la plupart, à 90%, dans d'autres pays par exemple. Donc effectivement, ça permet aussi de relocaliser. Donc, à service de change identique, on est sur une économie beaucoup plus locale. Et donc, effectivement, ça a un sens de développer ça au niveau des territoires. Nous, on parle beaucoup de communautés de communes parce que ce sont eux qui sont responsables de la gestion des déchets. Donc, pour nous, les territoires, c'est souvent les communautés de communes.
Merci, Antoine, pour votre témoignage qui était plutôt dans le domaine de la consommation. On va parler d'un exemple qui est plus dans le B2B, dans le service et la production d'entreprise à entreprise, avec Frédéric de Oliveira. Donc Frédéric, vous êtes dirigeant d'une société d'outillage spécialisée qui s'appelle Univera, et vous êtes en pleine réflexion sur une transition d'un modèle à un autre.
On avance déjà, bonjour. On avance déjà, en fait. On a été accompagné avec Atemis il y a maintenant 2 ans. Et on a un petit peu déjà beaucoup, même beaucoup changé notre modèle économique et notre façon de vendre notre produit. On est vraiment dans l'outillage à main. Donc l'outillage à main, on est vraiment dans un produit de consommation. Nous, notre approche était de se dire...
Et vos clients sont des particuliers ou
plutôt non, professionnels. Hein, c'est vraiment, on est vraiment dans le monde de la maintenance industrielle chez les professionnels. Et notre réflexion, c'était de se dire que l'outillage standard ne va pas partout. Et tout le monde dans sa caisse a modifié un outil, a bricolé quelque chose pour faciliter son travail. Et nous, notre idée, c'était de professionnaliser ce sujet-là et de pouvoir fabriquer vraiment à la demande en faisant toute une étude et toute une réflexion là-dessus. Donc on était déjà...
C'était votre entreprise, vous l'avez créée
J'ai créé il y a 10 ans. Voilà.
10 ans, d'accord.
Voilà.
Et l'idée, c'était... Là, en se disant, on va apporter plus de valeur avec un outil plus proche du besoin,
vraiment,
dans une logique classique de production et de...
Voilà, exactement. Exactement, parce que nos clients sont dans cette réflexion d'acheter toujours un produit. Donc on a toujours cette contrainte de vendre un outil. Alors que nous, notre démarche, elle est beaucoup plus complète que ça. Elle est vraiment dans toute la démarche de réflexion, de solution, d'ergonomie, d'amélioration des conditions de travail, d'études, de réflexion sur la meilleure solution à proposer aux clients pour fabriquer cet outil que l'on fabrique au final. Mais concrètement, c'est qui se vend aujourd'hui parce que, on en parlait tout à l'heure, c'est ce que sont prêts à acheter les clients aujourd'hui, ça reste un outil. On n'est pas encore dans une solution, on n'est pas encore à ce niveau de maturité, au niveau de l'outillage à main. Et donc, on continue à vendre une clé, un tournevis spécifique. Par contre, on a largement cheminé, on explique beaucoup plus, on fait vraiment ce travail de prescription, de pouvoir expliquer aux clients que derrière cet outil spécifique, il y a beaucoup plus de valeur sur tout le travail, toute la réflexion, toute l'étude qui va être menée par nos bureaux d'études, par les commerciaux sur le terrain, que la fabrication de l'outil en lui-même. Et donc, c'est vraiment cette démarche qu'on essaie de mettre en avant et sur laquelle on communique, et de beaucoup plus fonctionner sur une recherche un petit peu sur l'usage de l'outil, et au final de se dire, non pas acheter un outil, mais plutôt se dire à quoi doit servir l'outil. Qu'est-ce que vous cherchez à faire, d'essayer de comprendre vraiment l'objectif final du client. Est-ce que c'est serrer cet écrou? Est-ce que c'est et de rechercher la meilleure solution, qui ne sera peut-être pas un outil d'ailleurs. Ce sera peut-être de revoir la conception de la machine.
Travail.
Voilà. Mais voilà, nous aujourd'hui, on est dans ce modèle de fabrication d'un produit. L'idée, c'est de sortir pour pouvoir proposer un service.
Et qu'est-ce qui vous a amené vers cette réflexion, vers ce modèle? Est-ce que c'est des volontés business? Est-ce que c'est un côté plus éthique, plus environnemental? Quelle est la trajectoire? Comment elle s'est tracée dans ce chemin?
Alors, pour être tout à fait honnête, elle était vraiment business. C'était un jour l'ADEME qui nous appelle et qui nous dit « On vous propose de revoir votre modèle économique ». Je trouvais ça osé.
Ils appellent des gens comme ça.
Ouais, voilà, comme ça. Et puis habituellement, c'est le genre d'appel qu'on comprend pas. Et puis là, je sais pas. Il y a eu un moment où je me suis dit bon, bah pourquoi pas. Et donc j'ai été aux premières réunions. Et c'est vrai que l'approche qu'il y avait m'a tout de suite parlé, parce qu'on finalement on est déjà dans cette logique-là. Quand on fait de l'outillage à main spécifique, on est déjà dans le fait de se dire que l'outillage standard fabriqué en masse, il n'est pas adapté à tout le monde, et qu'il vaut mieux avoir un outil parfaitement adapté à soi, et que déjà on est dans cette réflexion de toujours chercher à améliorer les conditions de travail du salarié en lui faisant cet outil vraiment spécifique. Donc voilà, ça m'a parlé tout de suite, et donc on a tout de suite cheminé, et on a beaucoup travaillé sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les externalités, parce que au final, nous, le fait de faire un outillage à main spécifique, on travaille sur la préservation de la santé des salariés. On va essayer de leur permettre de travailler de manière plus ergonomique, plus confortable. On va limiter les TMS. Donc, on a un impact sur les troubles musculo-squelettiques, hein, tous les travaux répétitifs, pénibles. On va essayer de permettre de les faire d'une manière plus ergonomique, plus confortable. On travaille, on chemine pour ça. Donc, quelque part, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on communique, et ça a été vraiment une lumière qui s'est allumée avec cet accompagnement. C'est vraiment, en fait, on travaille pour la santé des utilisateurs d'outillage à main.
Donc pour résumer, il y a deux vecteurs. Il y avait le côté business model qui est intéressant pour votre société, d'une part, et puis tous les aspects éthiques, mais qui peuvent ou non arriver en second plan.
Oui, tout à fait. Et puis ils se rejoignent, hein, parce que finalement, ça se corrèle. C'est plutôt que d'avoir vraiment sortir d'une logique où tous les jours il faut trouver un nouvel outil à fabriquer. Pourquoi ne pas accompagner un client sur la durée, sur l'utilisation de l'outillage de manière plus globale?
C'est là, si on revient sur la définition de l'économie de la fonctionnalité à travers l'exemple, on est dans une logique où on va s'intéresser à la performance d'usage. C'est très intéressant. On se déplace de la question de l'outil aux conditions dans lesquelles l'outil va faire ressource pour la personne et pour l'entreprise. Alors, on voit pour la personne que l'outil peut lui permettre de travailler en mobilisant moins de force, en étant beaucoup dans des positions plus faciles pour le travail, et donc il y a un effet de santé. Donc en fait, une des performances d'usage, c'est un effet de santé. Et pour l'entreprise, Frédéric a de nombreux exemples, l'entreprise, elle peut gagner beaucoup de temps. Parce que parfois, il faut démonter tout un ensemble de pièces pour accéder à une partie d'un équipement à réparer. Et là, en construisant un outil adapté, on n'est plus obligé de démonter. On gagne du temps. Donc là, on fait économiser du temps à l'entreprise. Et donc, si on s'intéresse à la performance d'usage et si on se dit que finalement, l'intervention de Frédéric à travers l'outil, mais l'outil pensé au service de cet usage, il fait faire des gains ou potentiellement il apporte une valeur social du point de vue d'un effet de santé et une valeur économique du point de vue d'un gain de temps, eh bien pourquoi on ne le rémunérerait pas sur ces effets-là? Et là où ça devient intéressant, c'est que cette valeur de service, potentiellement, on peut chercher à l'augmenter. Et on peut être dans une logique de croissance, et c'est intéressant ce que vient de dire Frédéric, c'est en restant en lien avec le client. Parce que plus je suis en lien, plus je connais son travail, plus je le comprends, plus je vais lui apporter une pertinence dans la réponse et une valeur. Et vous voyez bien que on déplace la relation dans le modèle idéal, on déplace la relation de la vente d'un outil, que le client est prêt à acheter à un certain prix, mais qui renvoie toujours à des moyens, c'est-à-dire le temps que j'ai passé à concevoir l'outil et à le produire, et à des coûts de production, à une vraie valeur de service, et une valeur de service qui, pour le coup, peut être beaucoup plus élevée, quand on imagine les effets santé ou les effets gains de productivité.
On voit bien la dimension de l'immatériel, mais on arrive aussi un peu aux limites du concept qui nécessite quand même un fort engagement de toutes les parties. Si il y a que le producteur qui est convaincu de l'utilité de ce modèle, il va vite se retrouver face au mur des idées du client. Si lui il rentre pas dans cette philosophie là, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout de la logique.
Quelles sont les grosses barrières que vous affrontez au quotidien sur ce type de modèle? Je parle aussi à Antoine au téléphone.
Je pense que quelque chose qui revient très fréquemment, c'est aussi le financement. Parce que comme la propriété est transférée du client à celui qui fournit le service, la trésorerie, elle est plutôt du côté de l'entreprise. Et donc, il y a des grosses problématiques de financement. Nous, par exemple, pour pouvoir servir un nouveau client, il faut qu'on débourse autour de 300-350 euros, juste pour le servir, acheter le stock de couches nécessaire pour pouvoir lui proposer le service. Donc dans tous ces modèles-là, et c'est un peu aussi les solutions de leasing ou ce genre de choses, je pense qu'il y a toujours ce financement qui est, surtout en phase de croissance, problématique.
Vous avez besoin d'un fort engagement à la fois philosophique et dans la durée du client. Vous avez,
on n'est pas sûr et certain. C'est-à-dire que on investit, alors après on peut avoir un autre client qui va reprendre le lot de couches qu'une personne a abandonné au bout d'un mois, mais malgré tout, en phase de croissance, on est constamment en demande de fonds.
Et dans nos modèles en B2B, on a même des choses beaucoup plus simples, hein. C'est simplement des notions de service. Le service achat qui s'occupe de l'outillage à main n'est pas le même qui s'occupe des prestations de service. Donc quand on arrive à mi-chemin entre les deux services, où est-ce qu'on se positionne? Voilà. Donc c'est vraiment des choses parfois qui sont assez simples à faire bouger, mais qui prennent du temps.
Tout à l'heure, on a évoqué l'externalité positive ou négative et les collectivités. Du point de vue des politiques publiques aujourd'hui en place, peut-être d'abord commencer par l'échelle nationale, est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, qui favorisent, qui sensibilisent sur l'économie de la fonctionnalité, ou en étant de ce côté-là?
Alors en fait, vous avez aujourd'hui, vous savez que la politique économique, elle est plutôt au niveau des conseils régionaux, au niveau des régions. Vous avez aujourd'hui dans un ensemble de régions, des régions souvent en lien avec l'ADEME, qui financent des accompagnements d'entreprises. Donc ça, c'est le premier niveau. Alors ça peut être des accompagnements individuels, une entreprise qui dit le modèle de l'économie de la fonctionnalité m'intéresse, je voudrais le travailler, l'étudier. Pour notre part, à Thémis, on préfère travailler dans des logiques d'accompagnement collectif, donc on essaye de monter des dispositifs où on peut avoir une dizaine d'entreprises qui vont être accompagnées ensemble, une dizaine de chefs d'entreprise, de dirigeants qui vont être accompagnés ensemble sur une période d'une année. Ça, c'est un premier niveau. Vous avez un deuxième niveau, ce sont des territoires, alors la plus petite, qui commencent à s'intéresser au sujet, et l'idée serait de mobiliser à l'échelle d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, de mobiliser le référentiel de l'économie de la fonctionnalité, mais directement à partir d'un enjeu de territoire, un enjeu d'alimentation. Alimentation santé, et reconstruire un système, un écosystème, on appelle ça un écosystème coopératif, pour réarticuler la production, les modes de consommation, le passage du bien ou l'intégration des biens et des services qui vont faire qu'au final, les mangeurs que nous sommes, on va avoir un effet santé, par exemple, et qu'on va permettre à des producteurs de bien vivre. Ça, c'est la deuxième entrée. Et vous avez aujourd'hui une réflexion, une troisième entrée qui est sur la commande publique. La commande publique est un levier extrêmement fort, mais qui aujourd'hui, là aussi, il faut accompagner les changements de la commande publique. Et on va retomber sur ce que vient de dire Frédéric, par exemple, le distinguo entre investissement et fonctionnement. L'investissement, vous achetez un bien. Le fonctionnement, vous achetez un service. Quand vous intégrez les biens et les services, vous êtes à mi-chemin entre l'investissement et du fonctionnement. Ou alors, c'est tout qui bascule en fonctionnement, etc. Donc, ça change les habitudes d'achat, ça change les budgets. Et donc là, il y a un vrai travail, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est un levier, ça.
Mais qui est intéressant pour les sociétés à l'heure actuelle, qui cherchent justement à minimiser leur capital plutôt et passer sur l'opérationnel.
Alors si on revient sur ce que disait Antoine là juste à l'instant, c'est-à-dire que passer d'une logique où je suis propriétaire d'un bien à une logique où j'achète un usage ou une performance d'usage, c'est vrai que du côté du client, ça limite l'investissement et donc ça limite les immobilisations. Alors c'est vrai que les immobilisations se retrouvent du côté de l'offreur, et donc là il y a un vrai enjeu pour l'offreur d'avoir une capacité à prendre en charge cette immobilisation.
Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés en la matière que d'autres ?
Alors, on est quand même en France en train de développer une approche un peu spécifique. Hein, quand je vous parle de performance d'usage, de valeur immatérielle, on ne rencontre pas tout à fait la même chose dans les autres pays ou dans des formes qui sont un peu différentes. À l'étranger, vous avez tout un discours sur, on va dire, sur le premier niveau dont on a parlé, le passage de la vente à la location. Parfois, on fait référence à ça. Donc, bon, ça, honnêtement, nous, on regarde pas trop ça. On pense pas que c'est ça la réponse. Et puis, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, les systèmes produits-services. Voilà, alors les systèmes produits-services. Maintenant, on parle de systèmes produits-services orientés résultats, orientés performance. On essaye d'intégrer les enjeux environnementaux. Donc là, on va vraiment se rapprocher du sillon qu'on essaye de tracer sur cette idée d'intégrer des biens et des services dans une logique de performance à la fois sociale et environnementale.
Pour nos auditeurs, illustrer un petit peu le produit-service, parce que c'est un concept qui, voilà, on commence à mieux le cerner suite à cette émission, mais est-ce que concrètement,
Je pense qu'on est vraiment, nous, chez Univera, vraiment dans la partie outillage, hein, on est vraiment sur un produit. Le fait d'y mettre du service, eh ben, c'est de se dire, on va plus acheter une clé standard, mais on va chercher à pourquoi j'en ai besoin, quel est l'usage que j'attends de cet outil, et au final, on proposera peut-être autre chose que la clé, mais on va surtout répondre à la demande et à l'attente du client.
Dans les systèmes industriels, ça va être vraiment, je vous mets à disposition un équipement et je prends en charge la maintenance, l'entretien, je forme les personnes. Donc, vous voyez, je crée les conditions pour que vous puissiez utiliser l'équipement et en même temps, j'assure son bon fonctionnement. Donc là, on passe d'une vente de produits à un système produit-service.
On va terminer en un petit mot chacun. Comment vous voyez l'avenir, Antoine, de votre entreprise ? Quelles sont les pistes auxquelles vous pensez pour développer votre entreprise vers différentes pistes d'économie de fonctionnalité ?
Perspective, il y en a une très proche qui est que beaucoup de gens dans les territoires nous contactent pour dupliquer notre service sur leur territoire. Donc un accompagnement à l'essaimage de notre service, parce que comme je vous disais, l'idée c'est d'avoir un écosystème local pour faire à la fois la blanchisserie, le pliage des couches et la livraison. Donc ça, c'est assez facilement duplicable. C'est le premier axe de développement. Le deuxième, c'est en plus de servir les particuliers, de servir des collectifs, donc plutôt des crèches par exemple. Et le troisième point, qui est à beaucoup plus long terme, c'est la même chose sur l'accompagnement de la vieillesse. C'est-à-dire que en fin de vie, on recommence à mettre des couches. Et en plus, ça peut durer beaucoup plus longtemps que les bébés qui sont propres au bout de deux ans. La durée peut être beaucoup plus longue. Donc il y a un énorme marché en termes de réduction de déchets également sur la fin de vie.
Frédéric, vous, quelles sont vos pistes? On traite souvent des sujets qui sont un peu utopiques. Si vous allez jusqu'au bout de l'utopie, vous, quel serait le modèle ultime de votre entreprise dans lequel vous arriverez
Ça me fait penser à le premier échange que j'ai eu lorsque j'ai été formé à l'économie de la fonctionnalité où on m'a dit, on va faire d'outillage spécifique et on m'a dit peut-être que la solution ultime ce sera justement de ne pas faire d'outillage spécifique et d'apporter au contraire les solutions et de travailler en amont à la conception pour ne pas avoir besoin d'outillage spécifique et justement d'être payé sur notre valeur ajoutée, notre connaissance de l'outillage et d'éviter d'avoir à produire des outils spécifiques mais de travailler sur la solution et la recherche pour éviter ça.
Le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas.
C'est ça.
C'est un peu ça.
Ça me fait penser à l'exemple que tout le monde connaît des médecins asiatiques qui sont payés à l'état de santé de leur patients et non à la consultation. Et du coup, on est clairement dans cette démarche-là où au lieu de vendre un médicament, une consultation, on vend un bien-être.
C'est ça.
Dernier mot de Patrice.
Quand on est malade, on paye pas le médecin.
C'est ça.
Voilà.
Alors peut-être des choses qu'on n'a pas abordées qui
vous avez fait de la prospective à 2050.
Alors oui, on a travaillé pour l'ADEME, on a fait un rapport, donc j'invite ceux qui sont intéressés à aller lire ce que pourrait être un modèle abouti d'économie de la fonctionnalité ou des exemples. On a écrit un certain nombre de visions. Voilà, on a pris plaisir à les écrire. Une chose qu'on n'a pas abordée, c'est que tout ça change le travail. Ça change profondément le travail, ça change le travail au sens, ça va changer nos compétences, ça va changer nos métiers, ça va changer la relation avec nos clients, avec les bénéficiaires. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Et une des façons d'aller vers un nouveau modèle économique, c'est de s'intéresser à cette question du travail et c'est d'accompagner le changement. Et donc c'est, on pourrait dire, faire de l'innovation sociale, arrêter l'innovation technologique. L'innovation technologique, elle va pas nous sauver. Innovation de service, innovation sociale. Partir de l'expérience du travail et accompagner ces changements et construire des nouvelles formes de relations, des nouvelles formes de contractualisation. Mais tout ça, c'est des métiers qui changent. C'est plus le même commercial, c'est plus la même maintenance, c'est plus la même production, etc. Donc c'est un vrai levier et il faut surtout pas déconnecter la question des modèles économiques. Quand on pense économique, on pense souvent monétaire, modèle d'affaires. Mais un modèle économique, c'est avant tout ce qu'on va produire, une offre. Et donc c'est les personnes qui produisent cette offre. Donc c'est vraiment, soyons attentifs à ça. Et passons par l'expérience du travail pour aller vers des nouveaux modèles économiques.
Merci à tous.
Pour
désolé, on va devoir rendre l'antenne à l'émission suivante. Ce qui est vraiment un point commun à toutes nos émissions, c'est qu'on traite de sujets totalement différents, mais on arrive toujours à un moment où il y a un besoin de politique, quand même. Il y a un besoin de réflexion citoyenne, de prise de conscience. Et voilà, même sur les sujets les plus économiques, on se rend compte que si on n'arrive pas à cette étape, ça restera limité, peu importe les bénéfices qu'on évoque. Donc l'émission se termine. Vous pouvez la réécouter sur le site de Mode d'Emploi. Prochaine émission, Mode d'Emploi, 4e dimension, ce sera le vendredi 26 octobre sur le plan pauvreté avec Damien et Corentin. Bonne soirée à tous. Désolé pour Georges Milton. On n'a pas déclaré nos impôts avec lui, mais on va écouter Pierre-Henri Exorde.
Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Bonsoir. Thank you.